France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
Witold Gombrowicz, entretien avec Gilbert Maurice Duprez, première diffusion 1966, cette nuit, sixième et dernier entretien. Un des écrivains les plus lus, les plus commentés du XXe siècle, dont l'œuvre continue à rayonner. Il a donné ses entretiens à Gilbert Maurice Duprez après avoir reçu des prix importants. Leur rencontre semble avoir eu lieu à un moment particulièrement favorable. L'écrivain peut se regarder, tel que son œuvre l'a fait, à travers la réception. Or, il a souvent été jugé iconoclaste, scandaleux. En même temps, il se juge toujours autre que ce que son œuvre contient ou laisse voir de lui-même. Ces entretiens ont valeur d'autoportrait, c'est à juste titre qu'ils ont été intitulés « Gombrowicz » par Gombrowicz. Cette nuit, sixième entretien, la passion argentine, l'Argentine où il a passé 25 ans de sa vie entre 1930 et 1954. Il a raconté sa vie argentine dans son célèbre journal, toujours disponible chez Gallimard.
Journal Paris-Berlin, page 40-41.
Argentine. Oh, Argentine. Somnolent, plissé, lassé, je la cherche de nouveau en moi et de toutes mes forces. Oh, Argentine. Seulement, je voudrais bien savoir. Oui, c'est tout de même curieux. Pourquoi donc n'ai-je jamais été pris en Argentine même d'une telle passion pour l'Argentine? Mais pourquoi donc m'assaille-t-elle maintenant que je m'en suis éloigné? Mon Dieu! Et moi qui pas un instant n'avais aimé la Pologne. Et te voilà essayant d'avancer sur la corde raide pour tenter d'aimer l'Argentine. Il n'en est pas moins étrange que jusqu'à présent, le mot « amour » te fut interdit. Et te voilà en proie à des accès d'amour dévergondés, débridés. Quand je pense à tout le mal que je me donne pour écrire, pour rédiger ceci, cela se passe toujours ainsi. Dès que je veux augmenter en moi la sincérité, augmente également le risque de charger, de faire le cabotin. Et styliser devient inévitable. Bien sûr, me disais-je, bien sûr, tout cela n'est en somme rien d'autre qu'une question d'éloignement. N'avoir point aimé la Pologne pour en avoir été trop près, aimer l'Argentine pour l'avoir toujours tenue à une certaine distance, et n'en venir à l'aimer qu'au moment où je m'en éloigne et m'en arrache. À noter encore ceci, avec l'âge, c'est sans doute avec plus d'audace qu'on ose appeler, exiger l'amour, voir la beauté. Ces éléments vous apparaissent alors dans un lointain qui permet une franchise plus libre, et de plus, à distance, ils se révèlent tous deux peut-être plus concrets. Son propre passé. On peut aussi l'aimer à distance, alors que je m'éloigne non seulement dans le temps, mais dans l'espace. Moi, emporté, cahoté, soumis au cours ininterrompu de l'éloignement, de l'arrachement qui dure, en train de m'éloigner, me ronger, dévoré par une passion d'amour vers ce qui de moi justement s'éloigne, l'Argentine. Un passé?
Je demandais.
Ou un pays?
Tu vas voir les femmes?
Quelquefois.
Tu as du succès auprès des femmes?
Il rit aussitôt.
Non, pensez-vous, je suis bien trop jeune.
La pornographie.
Trop jeune.
Page 88.
Le sens
89.
En était humiliant. C'est pour cela que cette fois-ci, il avait pu prononcer délibérément le mot « jeune ». Mais moi, qui avais mêlé tout à l'heure, à cause de ce garçon, Dieu et les femmes, dans un quiproquo grotesque et presque ivre, j'entendis dans ce « trop jeune » comme un étrange avertissement. Oui, trop jeune, aussi bien pour les femmes que pour Dieu. Trop jeune pour tout. Et quelle importance qu'il croit en Dieu ou pas, qu'il ait du succès auprès des femmes ou pas, puisque de toute façon il était trop jeune. et rien de ce qu'il pouvait faire, dire ou sentir n'avait la moindre importance. Il était inachevé. Il était trop jeune. Il était trop jeune pour Aenia et pour tout ce qui naissait entre eux. Trop jeune aussi pour Frédéric et pour moi. Qu'était-ce, cette immaturité si frêle? Elle était insignifiante. Elle ne comptait pas. Comment pouvais-je, moi, un adulte, mettre tout mon sérieux dans son manque de sérieux, écouter avec un tremblement de tout mon être quelqu'un qui n'avait aucune importance? Je jetai un coup d'œil sur le paysage. Du haut de la côte où nous étions, on pouvait déjà apercevoir le lit de la Camiena et entendre même le bruit à peine distinct d'un train qui approchait de Bodzetchov. Toute la vallée s'étendait à nos pieds avec le ruban de la grande route. Et à gauche et à droite, l'échiquier vert et jaune des champs à perte de vue. Une éternité sommeillante, mais bâillonnée, étouffée, étranglée. L'odeur oppressante de l'iniquité imprégnait tout ce paysage. Et dans cette iniquité, moi, avec ce garçon trop jeune, trop léger, ne faisant pas le poids, dont l'insuffisance, l'inachevé, se transformait en une puissance élémentaire. Comment me défendre contre lui si je ne trouvais aucun point d'appui?
Mardi. Cette scène chez mes amis Sigismond me rappelle un souvenir récent, plus douloureux.
Journal 1953-56.
À ce souper, chez les X, m'est arrivé quelque chose.
Page 83-84.
Serait-il mieux placé que moi dans la société? Je ne le pense pas. C'est une des familles de ce qu'on appelle couramment l'oligarchie argentine, que des mariages avec les Castellanes, les Buclesch et Queensbury, les Wurmbrand, Stupach et les Brancaccio Rufano ont fait entrer dans la haute aristocratie internationale. Pourtant, même si j'admettais la prévalence de leur dignité, que devient alors l'avantage que me donne mon état d'artiste? Et ma subtilité et le raffinement de mon goût qui devraient les obliger à compter avec moi. Mais voilà, il m'est arrivé quelque chose. Au lieu d'entrer au salon décontracté, libre, j'y suis entré timidement. Un seul instant peut-être, je m'en suis laissé imposer par eux. Cet instant a suffi. Aussitôt apparut mon autre moi, celui de mon pauvre café, allié au menu fretin des médiocres poètes, voire des simples marchands de fruits. Aussitôt, toute ma triste grisaille et mon manque d'élégance firent irruption. Mais de quelle manière atroce! J'étais totalement aplati, ramolli. Pendant un long moment, je gardais le silence. Et tout à coup, je me mis à faire des efforts. Eh oui, je me mis à causer et je m'efforçais d'être décontracté, élégant, aimable. Mon univers tout entier venait de s'effondrer. Ce que j'avais acquis péniblement durant de longues années venait de tomber en ruine. Où donc était passée ma fierté, mon intelligence, ma maturité, mon mépris? Tout avait sombré. Et te voilà en train de faire des efforts. Et tu en fais, oui, tu en fais. Tu peines à genoux devant le Dieu que tu avais pourtant détrôné tant et tant de milliers de fois. Sorti enfin de ce bain turc, je courus dans la nuit, à travers les rues vides de la grande ville, jusqu'à mon petit café minable, à seule fin d'annoncer à la poignée d'amis et de comparses qui jouaient là au dé, tout en vidant des verres du vin Toro, j'arrive justement de chez les...
Au terme de cette longue conversation qui, rappelons-le, s'est déroulée en mai 1967, 2 ans avant que Gombrowicz ne meure, après que Gombrowicz se soit tour à tour dérobé, découvert, tour à tour montré sérieux, du plus grand sérieux, et enjoué, du plus subtil humour. Après qu'il se soit débattu dans ses propres contradictions, contre lui-même, pour être, s'affirmer et devenir lui-même sous nos yeux, une question me venait que je ne pouvais pas éluder. Retournons-nous dans le temps, vers ce Gombrowicz qui n'avait pas encore écrit opérette.
Vous êtes ce qu'un Français appellerait un anarchiste.
Ah non, ça je proteste. Moi je ne suis pas du tout un anarchiste, et même je suis en comparaison avec la littérature moderne française un optimiste. J'ai une vision du monde plutôt optimiste. Je trouve que nous vivons aujourd'hui dans un temps extrêmement fécond, avec une force extraordinaire. Nous avançons en avant, et je trouve qu'il n'y a pas aucun lieu de faire du drame avec notre situation actuelle, parce que les situations par lesquelles on a passé avant, par exemple celle du Moyen-Âge, étaient beaucoup plus terrifiantes. Alors, moi, je suis plutôt optimiste. Et je ne suis pas du tout anarchiste, parce que pour moi, la vie, elle a ses lois. Si vous vous levez le matin, vous êtes obligé de manger votre petit déjeuner. Alors, déjà, vous ne pouvez pas être anarchiste, parce qu'une loi s'impose, n'est-ce pas? Il n'y a rien à faire. Les anarchistes, c'est peut-être bon pour des Espagnols et des Russes, n'est-ce pas? Révolutionnaire au temps du tsarisme, mais je trouve qu'aujourd'hui cette idée doit être absolument
le général
dépassée.
La marquise ensemble. Oui, tout, oui, tout, oui, tout, oui, tout, oui, tout, oui, tout, oui,
tout, oui. Opérette.
Malheur.
Scène finale.
Malheur.
La révolution.
Hufnagel cavalier. Halt! Arrêtez! Vous avez bourré ce cercueil de vos actes de décès. Moi, je réclame à mon tour une petite place. Cercueil. Reçois donc mes espoirs, mes combats, mes victoires, et les souffrances du peuple éternel, et les combats du peuple éternel, et mon éternel galop. Le prince, la princesse, le curé, le professeur, ensemble. Malheur! Oh, malheur! Malheur! Agénor et Firulais. Malheur! Oh, malheur! Les valets. Malheur! Oh, malheur! Malheur! Flore, cercueil engrossé de trop de morts. Oh, malheur, 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 tous. Malheur, oh, malheur. Flore s'avance. Arrière, reculez tous. Laissez-moi m'approcher de ce cercueil. Moi, Flore, tous. Oh, Flore, oh, Flore, oh, Flore. Flore, amis. Moi, le maître et le sculpteur de la silhouette. Moi, le grand créateur de la mode. Il s'approche du cercueil. Je passe, Agénor. Je passe, Firulais. Je passe, Flore. Je maudis le vêtement humain. Je maudis le masque qui ronge notre chair vive et l'ensanglante. Je maudis les modes, je maudis mes créations. Je maudis la coupe des pantalons et des corsages qui s'attaquent à notre chair comme un acide. Tous, maudit, maudit. Flore, moi Flore, moi le maître de la mode masculine et féminine, je dépose en ce cercueil la nudité à jamais souillée par le vêtement, la sainte nudité de l'homme. Tous, dors, nudité sainte. Flore, sainte nudité de l'homme, dors en paix. Nous ne te connaîtrons jamais. Agénor, pantalon, Firulais, veston, le banquier, chausson, le général, caleçon, la princesse, foulard, le prince, cravache, la marquise, côte, le curé, cravate, Hufnagel, botte, tous sauf Flore. Caban, caleçon, camisole et caraco, corset, cotillon, crinoline, peignoir, froufrou, pèlerine, mantes et mitaines, bottines et boléros, etc., etc., etc. Flore, Sainte nudité, nudité insaisissable, d'ores à jamais. Il fait le geste de la déposer dans le cercueil. Voix d'Albertinette de l'intérieur du cercueil. Nu, nu, tous crient. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Silence. Voix d'Albertinette. Toute nue, nue. Agénor. C'est elle ! Virulet. C'est elle ! Flore. Silence ! Silence. Voix d'Albertinette. Nue, nue. Agénor, vite. C'est elle. Virulet, vite. Elle est ici, Agénor. Rêvant de ma nullité. Virulet. C'est elle, Agénor. Elle est ici, Virulet. Rêvant de ma nullité. Le couvercle du cercueil se soulève. Apparaît le bras nu d'Albertinette. Tous. C'est elle. Flore. Salut. Salut, nudité. Jeune à jamais. Albertinette s'élève lentement hors du cercueil, nue. Toi, la simple, toi, l'immortel, tous, nullité jeune, à jamais, salut!
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 20 janvier 1970.